Bonjour à toutes et à tous. Longtemps délaissée par les études historiques, l'histoire des relations internationales retrouve, à juste titre, ses lettres de noblesse depuis la fin des années 80. La fin des idéologies, la chute du mur de Berlin, la construction européenne ou bien encore les guerres contemporaines nous amènent à ouvrir plus facilement les livres d'histoire consacrés à l'échiquier complexe des rapports entre les nations. Tout comme pour l'histoire nationale, l'histoire diplomatique a naturellement ses événements, ses dates majeures, ses tournants. L'émission « Un jour dans l'histoire » a déjà retenu trois de ces grandes dates de l'histoire européenne. 1815, le congrès de Vienne, 1854, la guerre de Crimée et enfin 1866, la défaite autrichienne de Sadowa face à la puissance émergente prussienne. Je vous propose aujourd'hui de revenir aux sources de la modernité, aux sources de l'Europe, en consacrant cette émission à un événement malheureusement trop peu connu et qui pourtant reste dans l'histoire comme un des moments fondateurs, la paix de Westphalie le 24 octobre 1648. Les traités de Münster et d'Osnabrück qui font cette paix mettent fin à la fameuse guerre de 30 ans, conflit, comme nous le verrons, autant religieux que politique. Longuement préparé, cette paix inaugure une nouvelle ère, celle de l'équilibre des puissances. Elle voit aussi l'émergence des États-nations et du principe de souveraineté nationale. Cette paix a ses acteurs, nous pouvons même dire ses génies, Hugo Grotius, Richelieu, Mazarin, bien évidemment, pour ne citer qu'eux. Ils auront des élèves bien plus tard qui participeront aux événements que je viens de citer, Talleyrand, Metternich ou bien encore Castelrigg. C'est dire, en tous les cas, que la paix de Westphalie ne peut être pensée uniquement dans son époque, mais doit au contraire nous inciter à réfléchir sur le temps long, car il existe bel et bien un système westphalien qui perdure à travers les âges et dont on s'est réclamé tout au long du XXe siècle, du général de Gaulle à Henri Kissinger. Arnaud Blin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Vous êtes historien, chercheur à l'École de la paix à Grenoble, ancien directeur du Centre Beaumarchais à Washington. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet et dernièrement, vous avez publié aux éditions complexes « La paix de Westphalie » ou « La naissance de l'Europe politique moderne ». Alors, vous avez travaillé sur les relations internationales, surtout au temps contemporain, notamment sur la puissance américaine et sur le terrorisme. Est-ce que, Arnaud Blin, la question de Westphalie est incontournable pour toute personne qui se penche sur les relations internationales, même les relations internationales contemporaines?
Il est indispensable de revenir à la paix de Westphalie, puisque la grande question des relations internationales, depuis la Grèce, depuis Thucydide jusqu'à aujourd'hui, c'est la gestion des puissances, la gestion de la puissance. Et la paix de Westphalie pose le problème en réglant cette horrible guerre de 30 ans, une guerre totale comme on en a connu au XXe siècle. Elle la règle avec un nouvel ordre qui passe par un équilibre des puissances. C'est cet équilibre des puissances qui va réglementer les relations internationales européennes et puis mondiales depuis la moitié du XVIIe siècle, jusqu'en 1914, en gros, avec une interruption entre 1789 et 1815, donc le congrès de Vienne dont vous avez parlé, qui est très important, puisqu'il restaure en quelque sorte l'ordre westphalien. Cet ordre westphalien s'effondre en 1914, et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver une solution qui ressemble ou qui ne ressemble pas à cet ordre westphalien pour la gestion de la puissance. Et c'est cette question qui nous taraude encore aujourd'hui au XXIe siècle.
Alors sans déflorer immédiatement notre sujet, le système westphalien est généralement critiqué. Et cette critique, on le sait, est une critique morale. On reproche au système westphalien de reposer sur la force et sur l'équilibre ou l'accord des puissants et uniquement des puissants. Que répondez-vous à ceux qui font cette critique?
Cette critique n'est pas fondée. Je pense qu'elle émane de notre souci d'avoir une société et un monde égalitaire. Il faut quand même savoir qu'au départ, l'ordre westphalien donne une grande liberté aux États qui le composent, mais qu'il n'apporte pas cette égalité qui est une valeur qui n'a cessé d'augmenter depuis le XVIIIe siècle, dirons-nous. Donc elle met un peu à l'écart ce désir d'égalité pour favoriser la liberté. C'est un manque. Autre critique, le système westphalien n'élimine pas les guerres. Et même, on peut dire que la guerre fait partie intégrante de ce système, que c'est un système d'équilibre qui, en fin de compte, est relativement précaire, puisqu'il finit toujours par s'effondrer, comme il l'a fait en 1789 et encore en 1914. Donc, il a ses défauts, mais il a garanti une certaine paix pendant une période qui est tout de même assez longue, et il a mis un terme à cette affreuse guerre de 30 ans.
Alors, revenons-en précisément à l'histoire géopolitique de l'Europe. Nous sommes en 1618, très exactement, c'est le début de la guerre de 30 ans, et au cœur de ce conflit, il y a le Saint-Empire germanique. Que représente-t-il cet empire en 1618 ?
D'abord, l'empire fait partie de la maison Habsbourg, avec cet empire situé sur la zone allemande, autrichienne, tchèque, et dont la seconde partie est l'Espagne, bien entendu. L'empire Habsbourg, sous Charles Quint au siècle précédent, a la volonté d'établir une espèce de monarchie chrétienne et universelle sur le monde. Donc le Saint-Empire représente le deuxième volet de cette volonté hégémonique des Habsbourg de régner sur l'Europe, mais c'est aussi un État qui est fragmenté, qui est fragile, qui est miné par les tensions religieuses entre protestants et catholiques, entre calvinistes et luthériens notamment, et catholiques, entre les rivalités des petites puissances. Il faut savoir qu'il y a des dizaines d'États qui composent le Saint-Empire. Donc c'est un peu le ventre mou de l'Europe à cette époque.
C'est la première puissance européenne ?
Disons que l'Espagne est la première puissance européenne, mais la maison Habsbourg constitue vraiment le gros morceau européen. Il se veut l'héritier de Rome, donc il y a cette volonté impériale de régner sur l'Europe. Et c'est alors que vont émerger d'autres puissances plus modernes, à commencer par la Suède et la France, qui vont mettre en cause cette hégémonie Habsbourg.
Alors arrêtons-nous un peu sur le fait religieux. Il y a, on parle toujours d'une paix à l'autre, et en 1555, il y a la fameuse paix d'Augsbourg. La paix d'Augsbourg avait tenté de régler la question religieuse, la question du conflit entre les protestants et les catholiques. D'abord, quelle est la nature de cette paix d'Augsbourg, pour passer ensuite à Westphalie, et pourquoi fut-elle un échec, cette paix ?
C'était une paix de compromis, donc une paix qui n'était pas vraiment finie. Elle avait inclus le principe de la religion du prince et la religion du peuple, qu'on remettra à jour avec la paix de Westphalie, qui sera une des pierres d'angle de la paix de Westphalie. Mais à cette époque, on n'y avait pas inclus une partie des protestants, on n'y avait pas inclus les calvinistes. Donc c'était une paix qui a quand même fonctionné pendant quelques décennies, mais qui était mal faite, qui avait été instaurée aussi beaucoup pour asseoir la puissance des Habsbourg, la puissance établie par Charles Quint. Donc elle ne pouvait qu'exploser à un moment ou à un autre, et ce moment, ça sera en 1618.
Pourtant, vous écrivez, elle constitue une révolution hein, malgré tout, cette paix d'Augsbourg, puisqu'elle invente la non-ingérence dans les affaires internes d'autres États. Elle constitue en quelque sorte une introduction, c'est une paix qui est un précurseur en quelque sorte de la paix de Westphalie.
Oui, c'est disons une mauvaise introduction à la paix de Westphalie.
D'accord.
Donc on reprendra certains de ses principes, dont celui-là qui est fondamental. Mais c'était une paix qui était pas mal pensée, mais qui sur le point de vue pratique n'était pas à la hauteur. Or la paix de Westphalie, justement, ce qui fera sa force, ce sont les aspects pratiques que les négociateurs vont développer durant des années, et qui aboutira à cette paix qui va quand même être assez solide et robuste.
Alors, on a tendance à voir uniquement le religieux à l'origine de la guerre de 30 ans. Et pour vous, vous montrez dans votre livre que le politique est bien évidemment là, et le religieux et le politique se superposent finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'au début, c'est quand même beaucoup une guerre de religion. Même si les contentieux politiques sont importants, puisque des princes du Saint-Empire remettent en question l'autorité de l'empereur. Donc c'est une guerre qui a eu un aspect politique, qui va aller en grandissant et qui va peu à peu se superposer et presque exclure la dimension religieuse de la guerre. Au bout des 30 ans, ça sera surtout une guerre politique. Mmh. Au début, en 1618, c'est surtout un conflit religieux, puisqu'il démarre avec la destruction d'un temple protestant.
Est-ce qu'on assiste à une modernisation et à une sécularisation des États à cette époque ?
Oui, tout à fait. On dit que la paix de Westphalie, c'est l'invention de l'État moderne. C'est l'État organisé. Il s'organise d'abord parce que, à cause de la guerre, hein, c'est un État de guerre avec des souverains de guerre. Vous savez, Bush, il dit toujours « je suis un président de guerre ». Ben, à l'époque, c'était vrai aussi. Il y avait des souverains de guerre. Donc, pour mener à bien ces guerres incessantes qui perdurent durant des décennies et qui d'ailleurs se poursuivront d'une manière limitée après la paix de Westphalie, pour organiser ces guerres, pour les remporter, il faut un État moderne. Mmh. Et c'est la création de cet État moderne qui va faire en sorte que des pays comme la Suède ou comme la France vont prendre le dessus sur l'Espagne ou sur l'Autriche, qui en sont toujours à cette formulation impériale je dirais même pas de l'État, parce que c'est pas vraiment un État, mais enfin, donc l'État moderne remplace l'État hégémonique, l'État impérial.
Cette guerre va être une révolution, et là je parle bien évidemment de la guerre de 30 ans. Cette guerre, écrivez-vous, a un caractère absolu et irrationnel, et vous allez encore plus loin, vous avez utilisé le terme tout à l'heure, vous parlez de guerre totale. Et quand on parle de la guerre totale, on pense immédiatement aux guerres des totalitarismes, finalement au XXe siècle. Est-ce que ce n'est pas un terme un peu fort? Et si vous l'utilisez, pourquoi l'utilisez-vous?
Je pense pas que ça soit trop fort. C'est une guerre qui ressemble beaucoup aux deux conflits mondiaux. Elle y ressemble beaucoup plus qu'aux autres conflits qu'il y a eu avant et après. Elle partage certaines caractéristiques avec ces deux guerres. D'une part, vient un moment où on sait plus très bien quels sont les objectifs. On confond les moyens avec les objectifs. C'est une guerre où la terreur est employée de manière régulière, où on ne contrôle plus très bien les armées, ce qui n'est pas totalement vrai pour les deux conflits mondiaux, mais dans le cas de la guerre de 30 ans, on ne contrôle plus les armées. Ce sont des armées de masse, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'hommes qui s'affrontent un peu partout sur divers théâtres. On n'est pas en un endroit avec la bataille classique qui va durer une journée. On est aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Alsace, etc. Donc, pour tous ces aspects, je dirais que ça mérite bien la notion de guerre totale.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Arnaud Blin, auteur du livre 1648, La paix de Westphalie, paru aux éditions Complex. Nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Arnaud Blin, auteur du livre 1648, La paix de Westphalie, paru aux éditions Complexe. Alors, nous avons évoqué les grands principes qui président à l'origine de la guerre de 30 ans, la modernisation des armées, le caractère absolu du conflit. Alors, il existe une autre nouveauté qui, elle, pour le coup, est moins sanglante, c'est l'émergence des diplomates.
Oui, la diplomatie est à la mode, si on peut dire. On trouve des tas de traités sur l'art du diplomate. C'est un peu comme l'art du courtisan, c'est à la mode aussi à cette époque, ou l'art du parfait capitaine, il y a des bouquins avec ce titre.
Je profite d'ailleurs de ce moment pour présenter à nos auditeurs et recommander aux auditeurs la réédition de l'ouvrage de François de Calière. Alors François de Calière était un diplomate de la fin du règne de Louis XIV, l'art de négocier sous Louis XIV, qui vient d'être réédité au Nouveau Monde. Mais nous sommes vraiment dans cette période où prolifèrent les ouvrages, dites-vous, sur la diplomatie.
Oui, donc il y a ces ouvrages sur la diplomatie. Et ce sont des ouvrages théoriques, bien qu'avec des tas de considérations pratiques très intéressantes. Et la guerre de 30 ans va permettre toute cette littérature d'être mise en pratique sur le plan de cette paix qui apporte des tas de choses nouvelles. Donc c'est un courant intellectuel, dirons-nous, qui...
C'est plus un courant intellectuel qu'une école ?
Au départ, oui, oui, je pense. Et puis, bon, après, enfin, on ne peut pas vraiment séparer les deux, mais c'est un sujet qui intéresse les gens, tout comme la paix d'ailleurs, hein. On trouve des ouvrages pacifistes, même avant le début de la guerre de 30 ans. C'est quelque chose qui intéresse les gens. Et bon, il y a évidemment Hugo Crossus qui apparaît, qui est un peu le fondateur du droit international.
Alors justement, il y a bien évidemment la phase guerrière du conflit sur laquelle nous allons revenir. Mais il y a la phase politique. La phase politique est très importante. Et c'est à dessein, je pense, que vous mettez en deuxième chapitre, en avant les deux personnages qui dominent cette guerre de 30 ans et finalement cette paix de Westphalie, c'est Richelieu et Hugo de Groot, que l'on appelle habituellement Hugo Grotius. Alors, Hugo Grotius incarne pour vous la conscience philosophique et juridique de la paix de Westphalie. Qui fut Hugo Grotius, Arnaud Blin ?
Alors, Hugo Grotius est quelqu'un qui est né dans ce qu'on appelle la Hollande aujourd'hui, aux Pays-Bas, à Delft d'ailleurs, en 1583, si mes souvenirs sont bons. C'est quelqu'un qui est très marqué par la religion, qui est très marqué par la guerre, parce que son pays est en guerre de manière constante pratiquement durant toute sa vie. Et c'est quelqu'un qui va en quelque sorte transposer les notions chrétiennes de la guerre juste sur un plan séculaire et en utilisant des travaux qui existent déjà, notamment par Gentili, par Vittoria, va inventer ce qu'on appellera le droit international. Son livre le plus important s'appelle « Du droit de la guerre et de la paix ». Il paraît au début de la guerre de 30 ans. Mmh. Et cet Hugo Grotius, par ailleurs, sera un diplomate qui travaille pour la Suède et qui sera en résidence à Paris, où il sera en contact avec Richelieu. Les deux hommes, d'ailleurs, apparemment, ne s'entendant pas très très bien.
Pourtant, ils dominent leur siècle, donc la Suède, bien évidemment, qui est un acteur majeur du conflit. Alors, même si Grotius et d'ailleurs Richelieu sécularisent les relations entre les États, le fondement de leur réflexion, vous venez de le dire, est imprégné de religieux. On a tendance à faire de cette guerre de 30 ans et de cette paix de Westphalie une révolution, mais elle ne va pas à l'encontre de la religion.
Non, elle ne va pas du tout à l'encontre. Je pense que si elle a pu se séculariser, c'est parce que les hommes qui étaient derrière cette révolution philosophique étaient justement imprégnés de religion.
On parle aussi de la paix des cardinaux,
nous
y reviendrons tout à l'heure.
Avec Richelieu et Mazarin.
Voilà. Alors, est-ce que Grotius est un précurseur de la SDN, la Société des Nations ?
Oui, alors il a la particularité d'être un précurseur donc du système westphalien de l'équilibre et du système qu'on appelle de sécurité collective incarné par la Société des Nations et aujourd'hui par les Nations Unies.
Est-ce qu'on oppose ces deux systèmes, au fond, l'équilibre des puissances et la sécurité collective ?
Oui, tout à fait. Oui. La réponse du président américain Woodrow Wilson, un des cofondateurs de la Société des Nations, c'est justement de dire on en a assez avec cet équilibre des puissances, cet équilibre précaire, hiérarchique qui favorise les grandes puissances, qui ne garantit pas qu'il n'y ait pas de guerre. Donc on va instaurer un autre système qui sera celui de la sécurité collective, où le droit international, le droit entre les nations sera beaucoup plus important que ce qu'il n'était sous le système de l'équilibre.
C'est ce qui fait l'originalité de votre ouvrage, c'est que vous établissez malgré tout une parenté entre ces deux systèmes.
Ben oui, parce que ça part finalement du même personnage, hein, de Grotius. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, le système de l'équilibre, c'est celui qui sera pratiqué par les politiques. Le système de la sécurité collective sera celui qui sera défendu plutôt par les philosophes et non des moindres, puisqu'on retrouve Jean-Jacques Rousseau et surtout Emmanuel Kant qui va inspirer Wilson et les fondateurs de la SDN.
Alors Grotius est à l'origine des deux systèmes, pourtant vous le présentez comme un homme qui n'est pas pacifiste, c'est-à-dire il n'a pas vraiment de filiation avec Kant.
C'est un homme qui tout de même veut la paix, mais qui ne renonce pas non plus à la guerre. Il veut une paix où la guerre soit quand même possible pour que cette paix soit plus solide et plus durable. Alors c'est là qu'on peut dire que la théologie chrétienne y joue un rôle, puisque vous avez l'épisode de la chute, où l'être humain, finalement n'est pas parfait. Si on applique ça aux lois des relations internationales, eh bien, en gros, le monde n'est pas parfait. On ne pourra pas éradiquer la guerre de manière perpétuelle. Donc, tâchons de la limiter et de l'utiliser à des fins plutôt positives. C'est aussi l'approche de Richelieu. C'est d'ailleurs dans son testament politique qu'il parle de cette guerre qui peut être abominable, mais qui parfois peut aussi servir d'exutoire aux puissances et à obtenir une meilleure paix.
Il existe donc une guerre juste chez Grotius.
Oui, donc il s'inspire de la guerre juste des chrétiens avec le fameux Ius ad bellum et Ius in bello, c'est-à-dire la légitimité de l'entrée en guerre et la légitimité d'un certain droit de la guerre. Et il va transposer ça d'une manière séculaire. Mais c'est un peu aussi l'histoire des relations internationales que d'utiliser cette guerre juste. Au XXe siècle, et même durant l'époque nucléaire, combien ont utilisé les principes de la guerre juste chrétienne pour tenter de trouver des raisons morales à telle ou telle action.
Vous l'opposez à un homme, à un Français qui s'appelle Aymeric Crucet.
Oui, alors Aymeric Crucet, c'est quelqu'un qui est pas très connu, mais qui a écrit un traité au début du XVIIe siècle et qui parle notamment de la liberté du commerce comme étant un facteur de paix. Et cette liberté du commerce qui va être prise par Montesquieu, par Kant, par Adam Smith, par Ricardo, deviendra l'un des piliers philosophiques d'une certaine paix et d'une certaine approche des choses et des relations internationales qui est encore la nôtre aujourd'hui avec l'Organisation mondiale du commerce.
Alors, en face de la conscience philosophique et juridique que représente Grotius, il y a un autre homme, un Français encore, c'est tout simplement Richelieu. Et lui, il représente le politique.
Oui, alors il représente le politique puisque lui veut défendre l'État. L'État qui est le sien, donc la France. Et le grand apport de Richelieu, c'est d'une part de renoncer à la création d'une Europe chrétienne, ce n'est plus à l'ordre du jour, et de renoncer aussi à l'hégémonie impériale. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de conquérir tous les autres territoires, on défend ses acquis, et on essaye un peu de les augmenter, mais uniquement dans un souci de grandeur et de défense de la sécurité nationale. Donc cette notion de sécurité nationale qui est encore parmi nous aujourd'hui date de là. C'est tout ce qui entoure la raison d'État qui est en quelque sorte inventée par Richelieu, même si on la retrouve encore une fois philosophiquement chez un Machiavel.
Alors je cite Richelieu, « Ainsi, dans la nature humaine, on trouve trois causes principales de querelle. Premièrement, la rivalité. Deuxièmement, la méfiance. Troisièmement, la gloire. La première motive les hommes en vue du profit. La seconde, la méfiance, en vue de leur sécurité. La troisième, la gloire pour leur réputation. » C'est de cette citation que l'on peut dire que Richelieu fonde la politique réaliste, la fameuse Realpolitik.
Oui, en quelque sorte, ça résume un peu sa pensée, effectivement, puisqu'on essaye de construire la base de la puissance sur l'économie d'un pays. On se méfie des autres parce que si on n'est pas aussi fort que les autres, eh bien, on va régresser. Donc là, c'est toute la politique de l'équilibre. Et il a compris aussi que l'influence d'un pays, que la puissance passe par l'influence qu'un pays peut exercer et donc par son prestige, c'est-à-dire sa gloire. Donc c'est un peu les trois piliers de la politique réaliste, effectivement.
On retrouve, comme chez Grotius, une sorte de pessimisme face à la nature humaine.
Oui, c'est ce qui. Bon,
On ne
c'est.
croit pas en l'homme de Rousseau, en fait. Au bon sauvage de Rousseau n'est pas encore arrivé.
Oui, c'est vrai, même si Rousseau, peut-être, n'était pas aussi idéaliste qu'on le dit. C'est vrai, et c'est toujours dans cette notion chrétienne de l'homme qui n'est pas parfait que Richelieu va fonder son réalisme politique, puisqu'on étend cette notion au restant de la planète géopolitique, pour parler moderne. Donc, c'est un réaliste qui ne fait pas confiance aux autres, qui ne fait confiance qu'à lui-même.
J'insiste encore sur cette question religieuse, mais quand Henry Kissinger en fait uniquement un réel politicien, il a tort finalement.
Oui, il a tort. Alors, je pense que c'est un peu ça le tort de Kissinger. Il a toujours voulu fonder la politique réaliste sur un moule, qui est en gros celui du Congrès de Vienne. Il a toujours déclaré que la politique était amorale, qu'elle n'avait pas ou peu de dimension religieuse, alors que fondamentalement, je pense qu'au départ, cette dimension religieuse est là. Il y a un autre éminent personnage de l'école réaliste du XXe siècle qui s'appelle Rainer Niebuhr, qui est plus connu aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe peut-être, et qui était un théologien protestant qui, à mon sens, avait peut-être mieux compris ce que pouvait être le réalisme moderne qu'un Henry Kissinger.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Arnaud Blin, auteur du livre La paix de Westphalie, paru aux éditions Complexe. Nous vous retrouvons, Arnaud Blin, après cet intermède. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Alors, nous avons vu avec vous Arnaud Blin. Arnaud Blin, vous êtes l'auteur du livre La paix de Westphalie ou La naissance de l'Europe politique moderne, paru aux éditions Complexe. Nous avons vu ces deux grands personnages qui dominent vraiment la guerre de 30 ans et La paix de Westphalie, Richelieu et Grotius. Il fallait en parler. Venons-en à la guerre de 30 ans en elle-même. Quelles en sont ses origines immédiates? Vous le disiez tout à l'heure, c'est d'abord l'échec de la paix d'Augsbourg.
Oui, c'est l'échec de la paix d'Augsbourg, et puis c'est un événement. Bon, la paix d'Augsbourg étant imparfaite, il était pratiquement certain qu'un événement allait la compromettre. Cet événement, c'est ce qu'on appelle la défenestration de Prague.
Le 23 mai 1618.
Exactement. C'est assez simple. L'archevêque de Prague avait demandé à ce qu'on rase un temple protestant. Ce qui, évidemment, n'a pas plu aux personnes concernées, qui se sont réunies avec les envoyés de l'empereur, ils ont fait un espèce de tribunal où ils les ont condamnés à mort et ils les ont jetés par les fenêtres du château où se déroulait cette espèce de tribunal.
Alors vous insistez bien sur le fait qu'ils ne vont pas mourir, hein, ces envoyés.
Non. Ils échappent miraculeusement, et c'est important puisque les catholiques vont se dire c'est un miracle. Donc la force est de notre côté, et bon ben tout s'enclenche à partir de là. Les catholiques répondent à la défenestration et les protestants réagissent, et les combats commencent. La première véritable bataille militaire a lieu 2 ans plus tard.
La bataille de la Montagne Blanche.
Oui, toujours dans la même région. Et bon, là,
C'est un conflit intérieur au début,
Oui,
finalement.
c'est un conflit intérieur, tout à fait.
Ça correspond à la. Il y a plusieurs phases, hein, bien évidemment, dans la guerre de 30 ans. Et cela correspond à la première phase, conflit purement intérieur.
Oui, avec des ligues qui se forment, hein.
Oui.
Il y a plein d'États là-dedans. Il y a des ligues selon des lignes qui sont au départ religieuses. Il y a une ligue protestante, il y a une ligue catholique.
Est-ce que c'est comparable avec le conflit entre Richelieu et protestants, le siège de La Rochelle
Oui, c'est un peu comparable, mais enfin, bon, c'est au sein du Saint-Empire qui est une entité qui n'a rien à voir avec
Avec la
la
France,
France. Oui.
oui. Alors, la deuxième phase voit l'entrée en scène des puissances qui, jusqu'à présent, restent à l'écart, au premier rang desquelles le Danemark, puis ensuite la Suède. Alors, pourquoi le Danemark et pourquoi la Suède?
Il y a des tas de mini-conflits, hein, qui ont lieu à cette époque entre divers pays, avec la Pologne. Il y a le Danemark qui voit la montée en puissance de la Suède. Donc tout ça n'est pas pour aider la stabilité de cette zone. Pour comparer, c'est un peu comme ce qu'est le Moyen-Orient aujourd'hui, hein, en gros.
Oui.
Donc, vous avez des tas de conflits internes. Toujours pour reprendre cette comparaison avec le Hezbollah, qui est cette espèce d'entité para-étatique, vous avez ces espèces d'armées privées qui sont des États dans l'État et qui vont également jeter de l'huile sur le feu durant la guerre. On les emploie à droite, à gauche. La plus grande est celle d'un certain Wallenstein, qui est une armée absolument gigantesque qui va servir l'Empire. Donc vous avez tous ces intérêts, tous ces petits États, ces grands États, ces États émergents comme le Danemark et la Suède, ces groupes para-étatiques ou paramilitaires. Donc tout ça avec cette espèce de guerre civile ou guerre religieuse.
Il y a une solidarité vis-à-vis des protestants, bien évidemment.
Au départ, il y a une solidarité, et puis petit à petit, c'est là que le politique va se substituer aux religieux. Les alliances seront des alliances d'intérêts où se mêleront protestants et catholiques. Et l'alliance la plus célèbre, évidemment, étant celle qui unit la France et la Suède. La Suède étant protestante, évidemment, la France étant catholique.
Oui. Alors pourquoi la France intervient ? Parce que justement, le conflit devient politique et qu'il n'est plus religieux ?
Oui, alors il faut savoir que la France, dès le départ, on la sollicite pour qu'elle participe à la guerre.
Mais elle se fait attendre.
Elle se fait attendre, on la sollicite des deux côtés. L'empereur Ferdinand la sollicite et il croit d'ailleurs qu'elle va venir avec des troupes, ce qu'elle ne fait pas. Ça nous rappelle un peu les épisodes récents, toujours encore une fois au Moyen-Orient. La Suède également la sollicite, mais la France est en proie quand même à des graves troubles internes. Donc, elle ne veut pas trop se mouiller au départ. Et puis, progressivement, à mesure que la guerre prend de l'ampleur, que la maison Habsbourg perd du terrain, Richelieu puis Mazarin verront qu'il y a un intérêt, il y a une opportunité à ne pas rater, à entrer en guerre, notamment contre l'Espagne d'ailleurs.
Dont l'objectif est donc l'affaiblissement des Habsbourg.
Oui. Alors il faut savoir que déjà du temps de Henri IV et Sully, l'un des objectifs de la France, qui à cette époque était un objectif théorique, dirons-nous, c'était de démanteler la maison d'Autriche et de reconstruire une Europe avec au cœur une France puissance. Donc c'est l'idée qui est consignée dans le fameux grand dessin de Sully, hein, qui paraît dans ses mémoires, et c'est cette idée que mettront en place Richelieu, Mazarin et puis Louis XIV.
Alors la guerre dure, et il faut attendre presque 20 ans pour voir les premières tentatives de paix. La première tentative de paix est à l'initiative du pape, le pape Urbain VIII, mais Richelieu, lui, veut continuer le conflit, il veut vraiment obtenir ce qu'il souhaite pour la France.
Oui, tout à fait. Alors, c'est là que la guerre et la paix sont liées inextricablement, puisqu'on se sert de la guerre pour obtenir une meilleure paix. Et chaque fois que l'un des deux partis, celui des alliés ou celui de l'Empire, gagne une bataille ou gagne un peu de terrain, il recule l'échéance des traités de paix, pensant que s'il garde son élan, il arrivera à une paix qui sera meilleure pour lui.
Vous écrivez dans votre ouvrage que les premières lueurs de paix remontent à 1640. Donc entre 1640 et 1648, il y a vraiment 8 ans. Et les deux, comme vous dites, sont
oui, alors la Suède entre dans la guerre en 1630. Le Danemark y est rentré déjà un peu plus tôt. La France, c'est en 1635. Et c'est au début des années 1640 qu'on commence à parler paix, qu'on établit les deux villes de Münster et Osnabrück comme celles où auront lieu les négociations. Et puis après, durant les 6 ou 8 ans au cours desquels se déroulent les négociations, eh bien, ça prend du temps. On n'est pas à l'époque de l'Internet. Ce sont des villes... Bon, les deux villes sont assez proches l'une de l'autre. Je crois qu'elles sont à 60 kilomètres. Mais quand on est à Paris, Mazarin, lui, reste à Paris, par exemple, et il envoie ses lettres, ça prend 3 semaines, ou une dizaine de jours pour aller, une dizaine de jours pour revenir. Ça prend énormément de temps. C'est un problème, enfin, ce sont, la paix couvre toute une série de problèmes extrêmement complexes, hein, rien que le Saint-Empire, sans compter tout l'échiquier géopolitique. Donc, ça prend énormément de temps, sans compter les histoires de préséance et autres.
Alors, il y a un fait, on parle de paix, mais il y a un fait militaire qui est très important dans les années 40, c'est en 1642, Rocroi.
Oui, tout à fait. Alors, Rocroi, ça arrive peu après la mort de Richelieu et de celle de Louis XIII, et quelques jours après la mort de Louis XIII. Et le jeune Condé défait les armées espagnoles qui, jusqu'alors, étaient jugées invincibles. Donc, toute l'aura dont bénéficiait l'Espagne depuis le début du XVIe siècle, depuis la Reconquista et la conquête de la Nouvelle-Espagne, elle va perdre ce prestige en une journée, le 19 mai 1643, aux mains d'un jeune homme qui n'a que 22 ans. Alors c'est là vraiment que, bon, si on devait, comme vous le dites, si on devait prendre une journée où les choses vont vraiment changer, où l'élan va changer de direction, c'est bien ce jour. L'Espagne est finie, enfin, où sa chute commence à ce moment-là, et c'est l'émergence de la puissance française.
Alors, vous montrez dans votre ouvrage l'évolution du conflit qui se caractérise aussi par le remplacement des générations, parce que le conflit dure très longtemps, il dure 30 ans. Quel rôle va jouer ce remplacement des générations? Est-ce que ce sont les nouvelles générations qui, au fond, vont complètement créer la paix?
Oui, bon, bah, d'abord, il y a les Grotius, Richelieu, Mazarin qui négocient la paix. Et puis, vous avez toute cette nouvelle génération de stratèges qui vont marquer leur temps. Les Condé, les Turenne, les Montecuccoli, qui remplacent les chefs de guerre privés qu'étaient Wallenstein, Mansfeld, Bernard de Saxe-Weimar. Les armées qui remportent les victoires au début de la guerre sont donc des armées privées. Celles qui remportent les victoires à la fin de la guerre sont des armées modernes. Donc tout change, et avec ces armées modernes vient l'État moderne. Richelieu, Mazarin vont embaucher la famille Le Tellier, qui va créer la base de la puissance militaire de la France de Louis XIV.
Alors, il y a une continuité malgré tout. Bon, il y a ce changement de génération, mais il y a une continuité dans la politique, et notamment dans la politique française. Mazarin prolonge complètement l'œuvre de Richelieu, et vous citez ce texte capital qu'est la Grande Instruction. Qu'est-ce que la Grande Instruction?
Alors, la Grande Instruction, c'est un texte qui est écrit au départ par Richelieu, qui va travailler en, je crois qu'il, ça commence en 1638. Le texte final date de 1643. Les deux hommes vont travailler dessus, et c'est Mazarin qui va le terminer, et ça consigne en quelque sorte les principes qui vont être ceux de l'équilibre et des relations internationales qui vont rejaillir de la paix de Westphalie et qui vont être nos relations internationales, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui.
Pour vous, c'est le texte fondateur de l'Europe moderne ?
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un, du point de vue géopolitique, c'est un des textes importants, oui.
Mais alors justement, ce texte est français, vous venez de dire qu'il a une grande postérité jusqu'à nos jours. Est-ce que la paix de Westphalie n'est pas une paix pro-française et anti-allemande ?
Non, parce que justement, ce qui caractérise la paix de Westphalie, et encore, on revient encore une fois à la religion chrétienne, c'est le pardon. Donc, on va pardonner aux vaincus pour établir une paix durable. Donc, l'idée n'est pas de punir l'Allemagne ou de punir l'Espagne. C'est ça qui fait la force et la grandeur de cette paix de Westphalie. C'est ce que retiendront les architectes du congrès de Vienne, et que ne retiendront pas ceux des traités de Versailles.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy, pardon. Je reçois Arnaud Blin, auteur du livre La paix de Westphalie. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. À tout de suite, Arnaud Blin. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Arnaud Blin, auteur du livre 1648, la paix de Westphalie, dont nous commémorons l'anniversaire cette semaine, donc d'octobre. Alors, nous avons évoqué la guerre de 30 ans. Cette guerre de 30 ans se termine dans ces dernières années par des négociations qui seront longues à Münster et Osnabrück. Pourquoi cette division Münster-Osnabrück ?
Tout simplement parce qu'on a mis les catholiques dans une ville et les protestants dans l'autre.
Mais il y avait... j'allais dire une direction générale, si je peux utiliser ce terme moderne.
La direction générale venait des pays concernés, hein. Il y avait l'empereur qui était donc en Autriche, Mazarin lui était à Paris, Oxenstierna qui était le chef de la diplomatie suédoise était à Stockholm. Donc ça partait de là et il y avait les diplomates qui agissaient à Münster et à Osnabrück. Il faut savoir que le diplomate de l'Empire, un certain Trotmansdorff, avait les pleins pouvoirs alors que les diplomates français étaient pilotés par Mazarin.
Alors vous présentez bien évidemment tous ces diplomates, notamment les diplomates français. Il y a cette division géographique entre Münster et Osnabrück, mais encore une fois, cela reste une paix politique. Il y a cette question religieuse, mais elle vient quasiment en deuxième position par rapport à la question politique.
C'est-à-dire qu'il y a des tas de problèmes à régler, hein. Il y a le problème du Saint-Empire, qui est le problème fondamental, le problème de l'Allemagne, hein, qui a été complètement détruite. Je crois que là, à peu près, bon, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais à peu près la moitié de la population est morte. Ils mettront plus d'un siècle pour retrouver leur population d'avant-guerre. Donc c'est un pays qui est détruit, qui est ravagé. Il faut régler ce problème. Il faut régler le problème de l'échiquier européen, qui est complètement redessiné, hein, avec ces nouveaux États qui sont apparus. À commencer par la France et la Suède. Il faut régler le problème de l'Espagne qu'on ne fera pas à la paix de Westphalie, mais plus tard avec le traité des Pyrénées. Donc certains problèmes donc, ne seront pas réglés à cette époque. Et puis surtout, on va établir les nouvelles règles des relations internationales. Donc ça fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ça prend du temps, évidemment.
Alors, précisément, que décident ces traités de Münster et d'Osnabrück?
Alors, bon, les traités sont extrêmement compliqués.
Il y a la pratique et il y a toute la théorie et finalement l'esprit qui va présider au principe westphalien.
Oui, alors le principe le plus important, si vous voulez, c'est le respect de la souveraineté absolue. C'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le principe de non-ingérence. Et là, c'est un grand pas en termes de droits de l'homme, hein, puisque c'était le non-respect de la souveraineté absolue qui était cause de tous ces problèmes de guerre. Puisque si vous aviez, mettons, des catholiques et des protestants qui commencent une petite crise ou un conflit au sein d'un pays, vous aviez d'autres pays qui venaient se greffer là-dessus. À partir de la paix de Westphalie, tout ça, c'est fini. Quand il y a un conflit intérieur, il est réglé de manière interne. Et c'est aussi dû au fait que vous avez une homogénéité politique à l'échelle de l'Europe. Tous les pays sont des monarchies. On estime que chaque pays est capable de régir ses affaires internes. Ce sont des États viables, des États rationnels qui sont censés et qui respectent les lois en vigueur.
Alors, vous parlez de la liberté, hein, c'est un mot que vous mettez en avant, c'est une liberté des États, limitée dans la mesure où, encore une fois, l'équilibre reposait sur les grandes puissances. Est-ce à dire que le petit État ou moyen État n'est pas protégé?
Si, le petit État est protégé justement par ce principe de non-ingérence et par le fait que l'équilibre est en flux permanent. Donc, Ce qui veut dire que vous créez tout le temps des alliances, vous avez toujours besoin d'un État plus ou moins grand pour rétablir cet équilibre. Donc les petits États ont quand même un rôle important à jouer dans les relations internationales. Mais c'est un principe de liberté, ça n'est encore une fois pas un principe d'égalité. Donc les rapports de force avantagent toujours les plus puissants. Mais les petits sont protégés.
Alors, le puissant des puissants, c'est la France en 1648.
Il y a deux puissants, hein, en gros. Bon, la Suède, c'est beaucoup plus petit que la France. Hein. En termes de population, c'est 1 million, alors que la France aussi entre 15 et 20 millions. Donc déjà, vous voyez un ordre de grandeur. Donc c'est la France et puis c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre n'a pas participé directement à la guerre de 30 ans. Elle a eu ses propres problèmes. Elle s'établit comme la puissance maritime. La France n'a pas pu rivaliser par le fait qu'elle était engagée dans cette guerre de 30 ans. Donc de ce côté-là, elle a perdu puisqu'elle n'a pas pu faire ce dont Richelieu rêvait, c'est-à-dire de se doter d'une marine capable de rivaliser avec l'Angleterre. Donc la France est la puissance continentale. Et c'est ce schéma qui va gouverner les relations internationales jusqu'à aujourd'hui, puisque l'Angleterre sera la puissance maritime, et puis ensuite ce sera les États-Unis. Puis sur le continent, vous avez la France, vous aurez ensuite l'Allemagne et puis l'Union soviétique.
L'Angleterre va avoir un rôle à l'avenir qui sera bien spécifique, ce sera celui d'arbitre et ce sera l'arbitre de l'équilibre.
Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours pareil, hein. Elle fait partie de l'Europe, mais elle est un peu en dehors. Et à ce titre, c'est elle qui, comme c'est une grande puissance, c'est elle qui va aider à contrebalancer tout cet équilibre européen qui n'est pas toujours facile à maintenir. Et l'idée de l'équilibre est simple, hein, c'est toujours pareil. Aucun État ne doit être capable d'être plus lourd que tous les autres États réunis. Donc c'est un équilibre anti-hégémonique, anti-impérial, et c'est l'Angleterre qui va maintenir tout ça jusqu'à... Et c'est ce rôle d'arbitre de l'équilibre qu'aujourd'hui, elle essaie toujours de... dans lequel elle se reconnaît toujours entre l'Europe et les États-Unis. Donc on trouve vraiment des tendances qui se perpétuent pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui.
Revenons-en à la paix en elle-même. Est-ce qu'elle n'est pas un échec car les guerres vont continuer dans la seconde moitié du XVIIe siècle ?
Alors, c'est pas un échec dans le sens où il a toujours été établi que les guerres serviraient la paix, c'est-à-dire le maintien. Le but de l'équilibre westphalien, en gros, c'est de maintenir cet équilibre. C'est l'auto-préservation de l'équilibre. Donc la guerre, comme la diplomatie, est un instrument de cet équilibre et un instrument globalement de la paix. On peut appeler ça la paix globale. Mais c'est une paix globale qui passe par la guerre. Donc en ce sens, ce n'est pas un échec. Là où c'est un échec, c'est que certaines guerres, vous avez les guerres de succession d'Espagne, guerre de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans... Ces guerres sont longues, elles sont quand même meurtrières, ce ne sont pas vraiment des guerres limitées. Mais là encore, elles sont dues à des problèmes de succession qui constituent un des éléments qui restent du régime passé, en quelque sorte. On a créé l'État moderne, mais il y a toujours...
Il y a toujours une certaine continuité.
Une continuité avec ces problèmes héréditaires qui vont être la cause de toutes ces guerres. Donc c'est un peu... C'est quelque chose qui n'était pas dans l'État moderne, qui vient du passé.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe du système westphalien qui est à la fois pacifique, mais qui évoque la guerre juste, qui est à la fois guerrier ?
Oui, c'est un peu le... Encore une fois, on en revient au problème de la chrétienté. Hein. C'est un peu ce problème de cet animal social qu'est l'homme, hein, on retrouve la tradition aristotélicienne, et qui est aussi foncièrement, qui a des côtés foncièrement mauvais, qui a des côtés foncièrement belliqueux. Donc c'est ce double aspect, mais l'équilibre westphalien joue là-dessus.
Alors justement, faisons un bond dans le temps. Est-ce que Arnaud Blin, les idéologies détruisent l'ordre westphalien ?
Oui, les idéologies détruisent l'ordre westphalien, puisque bon, d'une part, les idéologies sont universalistes, donc on peut dire qu'elles sont en un certain sens impérialistes ou hégémoniques. Et elle rompt l'homogénéité géopolitique. C'est ce que va faire la Révolution française, puisqu'elle elle va détruire cette homogénéité européenne en instituant un nouveau régime politique qui n'a plus rien à voir avec ceux du passé. Elle met en marche, toujours la Révolution française, elle met en marche l'émergence des nouvelles idéologies universalistes et des nationalismes qui mettront le système à genoux en 1914. Et Napoléon, quant à lui, bon, lui, c'est vraiment c'est l'empire, c'est l'hégémonie. Il n'a que faire de l'équilibre. Lui, ce qu'il veut, c'est conquérir des territoires.
Je renvoie nos auditeurs à nos émissions sur le congrès de Vienne, sur la guerre de Crimée, puisqu'il y a Napoléon, mais il y a également le neveu. 1866, également l'émission avec Jean-Paul Bled. Passons au XXe siècle, si vous le voulez bien. Après la Première Guerre, est-ce que le système westphalien trouve des défenseurs au XXe siècle ?
Oui, il trouve des défenseurs, non pas après la Première Guerre mondiale, mais après l'échec de la SDN et de la sécurité collective. Il y a un renouveau du réalisme politique, de la realpolitik, notamment aux États-Unis, avec un certain Hans Morgenthau, avec Niebuhr, dont j'ai parlé auparavant, avec Kissinger, et également en France, avec quelqu'un comme De Gaulle, évidemment, avec Raymond Aron aussi. Peut-être le plus intelligent et le plus moderne des réalistes contemporains. Donc intellectuellement, il y a une renaissance du réalisme. Et puis après 1945, il y a la renaissance d'un équilibre qui n'est plus multipolaire, qui n'est pas vraiment westphalien, qui est ce qu'on appellera l'équilibre de la terreur, qui est un terme qui n'est pas totalement faux, mais qui est toujours basé sur la puissance et sur l'équilibre.
Est-ce que, depuis la chute du mur de Berlin, nous avons un retour de l'ordre westphalien ?
Nous n'avons pas un retour, mais certains, notamment en France, semblent avoir une certaine nostalgie pour un système d'équilibre où l'Europe agirait en contrepoids de l'hégémonie américaine.
Est-ce à dire que les pro-européens se doivent d'être pro-westphaliens ?
Oui, mais il faut quand même savoir que le système westphalien était beaucoup plus compliqué que ne le serait un espèce de contrepoids européen. Ça obéissait à des règles très précises, très complexes. La première d'entre elles étant celle du principe de la souveraineté absolue qui a été remis en question durant les années 90 avec le fameux droit ou devoir d'ingérence dans les pays confrontés à de graves crises humanitaires. Donc est-ce qu'on peut avoir un système westphalien sans ce principe de souveraineté absolue, je n'en suis pas sûr.
Eh bien, Arnaud Blin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste des relations internationales et vous avez écrit le livre 1648, La paix de Westphalie ou la naissance de l'Europe politique moderne, paru aux éditions Complexe. J'ai cité également tout à l'heure, je le cite à nouveau, François de Calière, L'art de négocier sous Louis XIV, un excellent complément à votre livre, L'art de négocier sous Louis XIV, paru aux éditions du Nouveau Monde. Alors, il y a assez peu d'ouvrages sur Westphalie. On trouve l'ordre européen du XVIe au XXe siècle, qui est dans la lignée de votre ouvrage, paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne, un livre dirigé par Georges-Henri Soutou et Jean Béranger. Et il y a le classique Les traités de Westphalie, dirigé par Lucien Belli. C'était un grand colloque international, je crois, pour l'anniversaire des traités de Westphalie.
Oui, Lucien Belli a fait plusieurs ouvrages excellents.
Voilà. Merci beaucoup, Arnaud Blin.
Merci à vous.
C'était Un jour dans l'histoire avec Arnaud Blin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt.